Baba.
I am your father.
On laisse pas Bébé dans un coin.
88 miles à
l'heure. I'll be back.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Ciné 7. Comme chaque dimanche à 19h, vous êtes de retour et nous aussi. Et on est bien content d'être de retour avec vous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Vous allez bien aujourd'hui ?
Ça va.
Nickel.
Comme un dimanche.
Comme un dimanche et en bonne santé. On vous espère vous aussi en bonne santé. Et puis on continue à vous accompagner dans ces moments un peu compliqués dans ce confinement qu'on espère le plus court possible. Mais on est là pour le raccourcir pendant au moins une heure et voire plus. Si Dieu le veut, hein, comme on dit.
Si affinité.
si affinité. On vous avait annoncé un thème très musical aujourd'hui, avec quelque chose un peu innovant, mais on a eu quelques petits soucis. Marvin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, s'il te plaît ?
Disons-le qu'on a eu des soucis de droits d'auteur sur certains visionnages de films. Et donc, ça sera reporté. On trouvera une solution pour voir ces films, parce que c'est des films qui sont difficiles à trouver sur les plateformes dites...
Pas très légal.
Donc on va essayer de le trouver légalement.
Les plateformes légales aussi, ces films ne sont pas disponibles pour le moment.
Voilà, donc du coup pendant ce temps, on va se rattraper avec, on va parler d'une trilogie qui nous tient à cœur, c'est la trilogie du Dark Knight, donc de Nolan, donc les trois Batman.
Ouais, la première vraie trilogie, parce que même si on avait fait la trilogie Cornetto, c'était pas vraiment des films qui suivaient. Là, la première trilogie que l'on fait dans cette émission, des films qui se suivent plus ou moins, enfin, qui se suivent.
La première trilogie qui avait pour vocation d'en être une.
Voilà, c'est ça, exactement. Je cherchais le mot. Et puis voilà, enfin, un très bon film, un très bon réalisateur, la première fois qu'on attaque Nolan.
Avant tout, on va spoiler dans cette émission. Donc si vous n'avez pas vu forcément les trois Batman, ou même si vous n'en avez vu qu'un seul, n'hésitez pas à regarder l'intégralité de la trilogie pour ensuite du coup nous suivre cette émission que vous pouvez retrouver du coup sur un podcast directement sur Internet. Parce que on ne va pas se gêner de dire des événements du 1 qui vont se découler par exemple dans le 2 ou le 3.
Ou vous pouvez faire l'inverse, hein. Si vous voulez, vous pouvez continuer avec nous pour ensuite regarder les films si ça ne vous gêne pas.
C'est dommage, c'est
dommage
bien de les découvrir.
Que, ouais, il y a une bonne qualité de film,
c'est
donc ça
sûr,
serait cool.
C'est sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Marvin aura carte blanche et aura le droit de dire tout ce qu'il veut dans les films.
Pour une fois.
Pour une fois, on ne va pas le brimer et on ne va pas pouvoir lui reprocher quoi que ce soit. Donc attention pour ceux qui ont vraiment envie de découvrir la trilogie des Dark Knight.
On commence ?
On commence.
Alors, je commence moi. Et est-ce qu'on fait une petite pause musicale avant ou après ?
Alors, ça, c'est comme vous voulez, les enfants, si vraiment vous avez envie.
Tu vois ce que tu as à dire ?
Ouais, je peux commencer, puis après, on vous met un peu de musique.
Allez, c'est parti.
Alors, moi, je voulais commencer déjà par mon rapport à Batman, et on va voir ce que les garçons pensent de leur côté. Moi, il faut savoir que, de manière générale, je suis plus Marvel que DC, niveau comics. J'ai vu quasiment tous les Marvel, je suis une adepte du MCU, je sais à peu près tout ce qui se passe, qui est qui. Le DCU, à côté, je connais pas grand-chose, et de toute façon, il a commencé à vraiment prendre de l'ampleur depuis quelques années seulement. Et en tout cas, du côté des comics pur et dur, moi j'ai toujours préféré Batman, c'est mon super-héros préféré, et j'ai un peu mis de côté tout ce qu'il y avait autour chez DC. Après, étant une grande fan de Batman, forcément je me suis intéressée à tout le lore, tout ce qu'il y a autour. Donc j'ai lu pas mal de comics, je suis une fan absolue des jeux vidéo. Et en bref, c'est un plaisir de parler de ça aujourd'hui, parce que moi je suis une adepte de l'univers Batman, de ses méchants, de toute la culture qu'il y a autour.
Alors, moi, du coup, pour mon expérience avec Batman, enfin, surtout en fait avec les super-héros, on va grossir directement. Moi, je suis parti d'abord dans plus l'univers Marvel, du coup. Notamment, du coup, moi, je suis pas très comics. Enfin, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais pu m'intéresser assez parce que, mine de rien, les comics, ça vaut cher. Et pour suivre du style, je vais prendre un exemple pour ceux qui connaissent un peu. Par exemple, les comics Civil War, il y a entre 6 et 8 tomes. Ça revient cher, donc je préférais peut-être regarder moi directement les films. Donc, du coup, j'ai commencé mon expérience avec les films de super-héros avec la première trilogie de Sam Raimi, donc de Spider-Man, donc j'ai beaucoup apprécié. Puis après, ça découlait en 2008 le lancement du MCU, donc avec le premier Iron Man. Et moi, donc j'ai suivi beaucoup le lancement du MCU et j'ai beaucoup aimé jusqu'à du coup la phase, on va dire, un peu finale, donc Endgame. Et du coup, pour parler du coup de DC Comics, donc je suis pas forcément fan du coup du DCEU, je crois que ça dit, donc du coup avec Man of Steel, Batman v Superman, enfin tout l'univers connecté qui avait été mis en place pour concurrencer un peu Marvel. Par contre, j'ai toujours apprécié la trilogie du coup de Nolan, plus précisément le Dark Knight qui, à mon sens, est pour moi le meilleur film de super-héros et un de mes films coup de cœur, un de mes films préférés. Mais par contre, les autres films, du coup, Batman Begins et Dark Knight Rises, donc du coup le 1 et le 3, je les aime beaucoup, mais pas au point de, voilà, d'avoir vraiment vouloir les revoir tout le temps, quoi.
Moi, c'est un peu comme Jade, mais tout en restant différent. Je suis, au niveau des films, je suis plus attaché au MCU. Pour des raisons personnelles, globalement je suis un homme à blockbusters, donc que ce soit MCU ou DCU, je regarde un peu tout, même si les DC, je mets un peu plus de temps à les voir que les Marvel. Mais par contre, au niveau des comics, les Marvel, j'ai beaucoup de mal à suivre et à accrocher. Et au niveau des comics DC, donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, je lis beaucoup de bandes dessinées et de comics. Par contre, sur les comics DC, c'est assez rare que je sorte de Batman. Ça reste toujours Batman ou son univers dans Gotham, parce que je suis très très fan de l'univers de Batman. Donc tous les films, je les connais très bien, je les ai vus beaucoup, et c'est un univers qui me plaît énormément. Et donc pareil, je suis très content de pouvoir parler de ça, même si j'aurais plus préféré commencer de parler dans l'ordre des films par la trilogie de Tim Burton, que j'apprécie plus, mais ça c'est mon avis. Mais j'apprécie beaucoup la trilogie de Nolan et je suis très content d'en parler ce soir.
Après, pour revenir purement en comics, on va vous passer un peu de musique juste après. C'est vrai que moi j'ai lu beaucoup Marvel et j'ai lu pas mal DC avec Batman. Et en fait, par exemple, j'ai beaucoup lu les X-Men, j'ai pas mal lu Captain America. Et c'est des comics qui, je trouve, alors bon, ça peut être contestable, se sont pas forcément renouvelés dans le style graphique. Et en fait, moi, ce que j'apprécie particulièrement chez Batman, j'en ai pas mal chez moi des comics de Batman, c'est qu'en fait, on passe du comic au roman graphique. Il y a énormément de styles différents. Il y a des comics entiers de Batman à l'aquarelle. Il y a des choses très sombres, des choses très, très légères. Et en fait, j'aime le fait qu'il y ait énormément d'artistes qui soient essayés à ce style et que du coup, ce soit un panel de création artistique vraiment super riche.
Oui, exactement. Il y a des artistes très différents et très variés qui se sont attachés à ça. Je pense notamment à Marini, qui vient plus de la BD et qui a fait deux Batman excellents, qui sont des vrais chefs-d'œuvre et qui sont vraiment bien, bien connus dans le monde du comics Batman.
Moi, je ne suis pas forcément d'accord pour le fait que les Marvel ne sont pas renouvelés, parce que déjà, visuellement, moi, je me rappelle, alors même si je ne suis pas du coup update des comics, je sais par exemple qu'il y a eu beaucoup de dessinateurs pour les comics Spider-Man, donc, et plus précisément, du coup, il y a eu aussi un bond qui a été fait dans l'univers Marvel, et je crois que c'est pareil du côté de comics avec le Flashpoint, DC Comics, pardon, la création de nouvel univers parallèle, on va dire, voilà, c'est ça, du coup, pour justement se renouveler dans cette histoire-là et ne pas tomber dans toujours la facilité, on va dire.
Oui, avec la création du multiverse, notamment,
qu'on
retrouve actuellement au cinéma et qui est en train de se développer avec les nouvelles phases, les nouvelles phases du MCU. On va attaquer avec une première musique issue de la trilogie de Nolan qui s'appelle Like a Dog Chasing Cars, et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur RKS et sur Ciné7. We'll be right back.
c'était le thème qu'on retrouve dans quasiment tous les épisodes, je crois dans tous les épisodes, composé par Hans Zimmer et James Newton Howard. Moi, je voulais vous reparler un peu du personnage Batman avant qu'on s'attarde vraiment sur les films, pour vous faire un petit topo. C'est un des super-héros les plus connus, en fait, celui qui revient souvent dans la culture populaire. Et je pense que ça a trait au fait que ce soit un héros en fait, qui n'ait pas de pouvoir. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve chez Marvel avec, par exemple, Iron Man. Dans les deux cas, c'est des riches industriels qui ont fait fortune et qui ont assez d'argent pour se construire des gadgets, pour avoir des petits trucs sympas, quoi. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les super-héros font partie intégrante de la culture américaine et de la culture, j'ai envie de dire, sociétaire et politique. Par exemple, Captain America, il a été créé pendant la guerre en 1940. Il y a eu un comic super connu où il met un coup de poing à Hitler. Enfin, c'était des choses très engagées politiquement. En comparaison, Batman, il n'a pas trop d'origin story de ce côté-là. Il n'a pas été très, très politisé. Enfin, pas autant que certains auraient pu l'être. Chez DC, on a plutôt Wonder Woman qui est partie sur ce front-là, qui a eu un combat féministe depuis plusieurs décennies. Et sinon, pas la première fois que Batman est adapté à l'écran chez Nolan, puisqu'on a eu Batman and Robin, Batman Forever, on a Burton, on en parlait, qui s'y essayait. Mais c'était souvent un style assez cartoon, assez décalé. Et là, c'est vrai qu'on fait le grand saut et on rentre dans un univers très noir et vachement plus fidèle à ce qu'on a pu voir ces dernières années dans les comics.
Oui, exactement. C'est, comme tu le disais, c'est un super-héros qui est un peu particulier parce que c'est un super-héros, on pense tout de suite, quand on voit super-héros, on pense tout de suite à Superman ou à ce genre de choses, ou des super-héros qui ont des pouvoirs extraordinaires. Batman, mis à part son entraînement et son argent... Il n'a pas spécialement d'autres pouvoirs extraordinaires, même si l'argent aide beaucoup. Et il n'a pas vraiment de pouvoir, c'est plus des gadgets. On retrouve un mix entre Iron Man et James Bond, quoi, avec tous sa panoplie de gadgets. Mais c'est un homme qui est plein de volonté et de... Comment on pourrait dire
de d'honneur, conviction.
De conviction, exactement, et qu'il a envie de défendre. Et effectivement, c'est un Batman qui... Je trouve que le Batman de Burton se rapproche de ça aussi. Mais c'est un Batman qui n'est pas vraiment cartoon, qui n'est pas fait pour le très très grand public. C'est vraiment un Batman qui est travaillé et qui veut se rapprocher de l'univers assez sombre des comics. Et c'est ce qui m'a énormément plu dans cette trilogie-là.
Ok. Est-ce que maintenant on parle un peu du film ?
Exact.
On va commencer avec le film. Qui s'y colle ?
Toi ?
On va faire, je pense, une présentation par film, puisqu'on est trois, trilogie, c'est
exactement.
Très bien. Alors du coup, donc Batman Begins, donc, comme son nom l'indique, c'est le commencement, donc du coup réalisé par Christopher Nolan, comme on l'a dit, avec comme co-écriture son frère, donc son petit frère, qui après va le quitter un peu plus tard dans la période Dunkerque. Donc du coup, de quoi parle, ce film-là ? Donc du coup, ça va parler de l'enfance de Bruce Wayne, pour commencer. Donc du coup, je pense que tous ceux qui connaissent Batman, même ceux qui ne connaissent pas, ils savent à peu près l'origine de Bruce Wayne. Donc du coup, né de parents riches, donc du coup de Martha Wayne et de Thomas Wayne, qui vont se faire assassiner dans une petite ruelle sombre par un voleur en fait, par un quiproquo. Il va tuer ses deux parents. Donc Bruce va se trouver du coup seul avec le majordome de son père qui s'appelle Alfred Pennyworth. Et il va vivre dans son manoir pendant jusqu'à l'âge de l'adolescence. Puis il va, d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, il va partir. Donc je pense parce que, en fait, Gotham, donc, où il vit, c'est une ville fictive des États-Unis, pardon. Donc Gotham est un peu, on va dire, enraciné par la corruption et par les meurtres. Meurtres qui sont du coup à l'origine des décès de Bruce. Et donc du coup, il va en fait s'exiler. Dans une prison, en tout cas il va se retrouver dans une prison au début du film, donc ça va se je crois que c'est 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus,
6-7,
ouais, c'est ouais, à peu je près. Crois qu'il est parti 8 ans
voilà
tout,
mais
ouais.
Du coup c'est pas 7 ans après le décès de ses parents, c'est 7 ans après du coup sa fugue de Gotham. Donc on va le retrouver, ce Bruce Wayne est toujours en fait habité par la vengeance et il va croiser, on va dire, le personnage, l'antagoniste, donc Ra's al Ghul, qui est interprété par Liam Neeson,
qui, pas encore.
C'est-à-dire ?
Pas encore.
Oui. Bon, on va... Voilà. oui, on va dire...
Soyons précis.
Ça va être une surprise, mais voilà, ouais. il va rencontrer du coup Liam Neeson, qui va lui demander, on va dire, de ramener une fleur bleue donc, pour un pèlerinage. Et ensuite, il va le former à la Ligue des Ombres. Donc, c'est, on va dire, une Ligue des Ombres, c'est vraiment, qui agit dans l'ombre, qui en fait va... qui est là pour le bien, soi-disant, des habitants, pour, on va dire, défaire la corruption dans les villes. Et donc, du coup, ce Bruce Wayne va faire sa formation avec Liam Neeson, on va pas encore dire son nom du coup dedans, et il va revenir du coup sur Gotham pour se venger. Et là, il va suivre en fait du coup une histoire, on va dire une enquête. Donc Bruce va devoir enquêter. Donc d'une part, il va devoir faire un peu son deuil sur sur ses parents, sur sur du coup le l'assassin qu'il n'a jamais pu retrouver à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, il va avoir du coup une histoire avec avec Liam Neeson, avec du coup un autre méchant qu'on va parler juste un tout petit peu plus tard dans dans ce film-là. Voilà. Donc, du coup, c'est on va dire l'origin story tout simplement de Batman dans ce film-là.
Alors Marvin parle d'origin story effectivement puisque le film retrace l'enfance de Bruce Wayne. Alors pas pas de façon exhaustive. On voit quelques flashs, on voit le drame de la perte de ses parents, on commence à voir se dessiner la relation avec Alfred. Et en fait, c'est l'histoire qui pose les bases de l'homme et du héros. Et c'est un film qui est très réaliste, assez sérieux. Je parlais tout à l'heure des films qui pouvaient être un peu plus décalés, un peu plus cartoon. Là, Christopher Nolan le voulait vraiment ancrer dans la société. Et voilà, c'est un film sombre qui dénote un peu des adaptations précédentes. Après, je ne sais pas si, Kylian, tu veux parler un peu du scénario, si je continue ?
Non, vas-y, le scénario, pour l'instant, vous y êtes bon, tu vois.
Alors, on a parlé un peu de la perte de ses parents, de son exil imposé. Donc, c'est aussi une histoire qui parle du deuil. On nous montre la culpabilité, la colère, la peur liée à la perte de ses parents. Et cette peur, en fait, ça va être le moteur du film. C'est le thème récurrent dans le film. C'est ce qui guide les pas de Bruce qui, sur son chemin en fait, pour devenir Batman. Et c'est cette peur qui l'encourage à enfiler le masque et à faire en fait, de sa faiblesse une force.
Alors, je te coupe, mais du coup, il a peur de quoi,
Bruce ? Il a peur de quoi ? Alors, petit, il est tombé dans un puits, en fait. Il marchait sur des planches qui sont dérobées sous son poids. Et il est tombé dans un puits duquel sont sorties des centaines de chauves-souris qui l'ont terrifié. Et en fait, il avait un peu refoulé le souvenir jusqu'à un peu plus tard où il allait voir une pièce de théâtre avec ses parents. Et sur scène, il y avait des danseurs déguisés en chauves-souris qui lui ont foutu une trouille monstre. Et en fait, il n'a pas réussi à ce moment-là, justement, il n'a pas réussi à surmonter sa peur. Il a demandé à ses parents de quitter le théâtre dans la précipitation. Et c'est en quittant le théâtre qu'ils sont fait... descendre dans une ruelle.
Donc typiquement, on comprend que à cause de la peur de Bruce, ses parents sont morts. Donc s'il aurait pu vaincre sa peur plus tôt dans le film, donc du coup ne surmonter la peur des chauves-souris, potentiellement ses parents ne seraient pas morts. Oui. C'est ce que nous dit le film en tout cas, c'est ce que nous laisse entendre, c'est que du coup c'est la faute de Bruce.
C'est ce que Bruce veut bien croire aussi.
Mais parce que c'est vrai.
En culpabilisant, oui.
Qu'on se le dise.
Oui, dans le déroulé des choses, après,
c'est un enfant,
il ne pouvait pas imaginer que cette peur-là l'amènerait à cet endroit-là, mais effectivement, c'est le point de départ du film et c'est le point de départ de la montée en puissance de Batman. Quoi.
Bah, donc, typiquement, chaque film, il va avoir un thème qui va être récurrent, donc comme l'a dit Jade, ça va être la peur pour celui-ci, et justement, c'est... Même si je n'ai pas aimé forcément l'interprétation du personnage qui va jouer, on va dire, le méchant dans ce film-là, la peur va être représentée par l'épouvantail. Mmh. Donc du coup, interprété par Cillian Murphy, qu'on a vu dans Peaky Blinders, par exemple. Et c'est bien dans le sens où un épouvantail, ça fait peur. On va sans expliquer rapidement, en fait, dans le speech du film, l'épouvantail va avoir une espèce de toxine qui va en fait un espèce de poison qui va en fait révéler les peurs les plus profondes de chaque personne, un peu à la manière de, par exemple, dans Harry Potter 3, il y a une armoire qu'on va ouvrir et en fait ça va ouvrir les peurs les plus cachées de chacun. Là, ça va être des peurs qui vont être pas communes, justement, ça va être des peurs assez individuelles. Et du coup, à chaque fois que Bruce va affronter l'épouvantail, il va avoir des chauves-souris, puisque c'est sa peur principale.
Et d'ailleurs, dans Harry Potter, le monstre s'appelle l'épouvantard. Ouais. Il y a aussi une analogie au niveau des termes. Oui,
c'est fait pour. Hein.
Ouais. Après, il faut dire que Bruce, il en a pas mal des peurs. Donc, il a la peur de ne pas réussir à sauver ses proches. Et il a la peur de ne pas réussir à sauver la ville, à arrêter le crime. Et par exemple, ses parents étaient des bienfaiteurs de la ville, c'est eux qui ont fait de Gotham ce que c'est devenu. Rappelons que Gotham est inspiré de New York, donc c'est une très grande ville. Et en fait, ses parents qui étaient des bienfaiteurs, qui étaient toujours pour le bien commun, pour la société, de voir qu'ils ont dévoué leur vie aux autres et finalement que ça s'est retourné contre eux, puisqu'on voit la scène où son père essaye de calmer Joe Chill, il s'appelle, celui qui les tue, il essaye de le calmer, de le rassurer. Et finalement, même ça, ça provoque sa perte, en fait, d'avoir voulu être altruiste jusqu'au bout. Donc je pense qu'il a aussi la peur de tomber là-dedans et de faire de son mieux pour aider les gens qu'il aime et en fait de tout faire de travers.
Oui, bien sûr. Alors, en plus, c'est tellement des bienfaiteurs qu'ils ont construit un métro pour qu'il soit pas cher pour les plus démunis, que tout le service, ils ont rénové tout le service d'eau et de gaz.
Ouais, ça pourrait s'appeler Wayne City, quoi.
Voilà, c'est ça.
je rebondis sur du coup le métro que t'en parles, Kylian. Du coup, le transport en commun qu'on va voir dans ce film, donc qui a été érigé par par Thomas Wayne, je trouve qu'il dénote vachement avec la trilogie que Nolan veut mettre en place. Donc du coup, une trilogie assez réaliste. Là, je pense qu'il a voulu intégrer un peu un décor assez comics, parce que qu'on se le dise, en fait, pour moi, ça dénote totalement dans le décor. Déjà, en 2005, la CGI n'était pas folle. Et là, le souci, c'est que du coup, ça se voit assez. C'est comme aussi, on voit dans un, il y a un plan avec l'asile, pardon, d'Arkham, et un peu des autour, il y a des espèces de bidonvilles. Donc, pour montrer un peu, voilà, du coup, d'un côté, il y a les beaux buildings bien propres, et d'un côté, voilà, il y a les fous qui sont à côté des bidonvilles. Et ben, en fait, c'est fait en CGI et c'est pas, enfin, c'est mal fait.
C'était dans les comics. Il a été introduit dans les comics.
Ouais, mais le souci, c'est qu'après, du coup, est-ce qu'on va le voir dans The Dark Knight et dans Rises? On ne va pas le voir du tout.
Parce qu'il est détruit.
Oui, il a été détruit à la fin du film, quand même.
Non, après, il a été reconstruit parce qu'après, dans Dark Knight, on le voit rapidement autour d'un plan. Mais vraiment, en fait, je pense qu'il a voulu à ce moment-là un peu le cacher parce qu'il a vu que. Je pense qu'il a pris conscience que ça n'allait pas dans ce film-là. Il voulait une trilogie assez réaliste, et là pour le coup, bah, c'était pas très réaliste, quoi. Enfin, ça faisait plus, voilà,
dans, il a peut-être été trop gourmand
dans, bah, dans un film du type Burton ou Schumacher, ça pourrait passer, mais là du coup dans le film de Nolan, bah, pour moi ça fait un peu tâche.
Après, moi j'ai remarqué quelque chose avec le train, c'est que la première fois qu'on le voit, c'est Bruce qui le prend avec ses parents pour justement aller à la fameuse pièce de, enfin, à l'opéra tragique, on va dire, et le train est tout beau, je pense qu'il doit être neuf de pas très très longtemps, il brille et tout ça, et quand Bruce revient après ses 8 ans d'exil, c'est vraiment le métro new-yorkais qui est tout tagué, qui est délabré, et qui, c'est un peu un signe, enfin, comment ça s'appelle, c'est un parallèle avec la ville de Gotham, parce qu'on nous dit que du temps des parents, voilà, c'est ça, on nous dit que du temps des parents de Bruce, la ville est bien, que les parents sont des bienfaiteurs de Gotham et qu'ils ont vraiment amélioré la vie des gens. Et quand Bruce revient, on lui dit que la ville est gangrénée, que le crime est de partout, que la ville est aux mains de la pègre. Et je pense que le train est symbole de ça, et c'est pour ça que Nolan a voulu le mettre, mis à part son rôle, dans le dénouement final du film, quoi.
Bah, je crois que quand ils prennent l'espèce de métro-train ensemble avec les parents, c'est la première fois qu'il le prend, parce qu'il dit un truc du style « c'est toi qui as construit tout ça ». Enfin, en fait, il n'était même pas au courant qu'il y avait tout ça. Donc, soit ça veut dire que, comme il est riche, il n'a pas besoin de prendre ce transport-là et il se déplace plus en limousine qu'autre chose. Ou alors, justement, c'est un nouveau projet qui a été érigé par Thomas Wayne et il lui fait faire prendre, du coup, ce train. Donc, soit... dans tous les cas, c'est une découverte pour Bruce Wayne, dans tous les cas. Il l'a jamais pris. On le comprend très vite durant la scène.
Et d'ailleurs, on a dit que le train était détruit à la fin. Il tombe. Petite transition un peu tirée par les cheveux pour la nouvelle musique que j'ai envie de vous diffuser, qui s'appelle Why Do We Fall.
C'est pas mal.
Donc en anglais, pourquoi nous tombons. Et on se retrouve tout de suite, toujours sur Ciné 7.
vient d'écouter Why Do We Fall de Hans Zimmer tout seul cette fois-ci. Et on va finir sur Batman Begins avant de passer au deuxième opus. Moi, je voulais faire un petit point technique. Donc, c'est quand même un film qui a une très belle photographie. Après, un étalonnage un peu particulier. Enfin, ça peut surprendre certains parce que, évidemment, on l'a dit, c'est un film assez sombre par son thème, mais aussi par son esthétique. Donc, on a des couleurs, ça tire sur du bleu, sur du noir. Et on parlait aussi des comics. Moi, je trouve que c'est une bonne adaptation parce que je me suis un peu renseignée. J'ai lu des comics, mais pas tous. Et on a énormément de scènes qui sont issues des comics et notamment Year One et The Man Who Falls. Donc, ça fait écho à ce qu'on vient d'écouter. Après, par rapport aux personnages, moi, j'avais envie d'attirer votre attention sur quelque chose qui est assez intéressant. C'est que ce premier opus, en fait, il a pour vocation, évidemment, de nous présenter les bases de l'univers et, du coup, les bases des personnages. Il y a pas mal de monde qui est introduit d'un coup. Et moi, ce que j'ai trouvé assez bien, c'est que même les personnages qui sont considérés comme secondaires, par exemple Falcon, donc le chef de la pègre à ce moment-là, ils sont assez étoffés. On leur donne des motifs, on leur donne du bon dialogue. C'est pas des personnages de seconde zone où on se dit hop, on le présente et après on s'en débarrasse. Et je trouve que c'est assez sympa à regarder parce qu'on a vraiment l'impression que l'attention au détail a été poussée très loin.
Oui, et puis il y a aussi par rapport à un film de super-héros, je trouvais qu'il y avait plusieurs méchants. C'est ça que je trouvais dans toute la trilogie. Souvent, on a le super-héros qui combat le super-méchant et puis il se tire la bourre pendant tout le film et prêt à le dénouement. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs enjeux, que Batman jouait sur plusieurs tableaux différents. Et c'est ça qui rend le film un peu plus réaliste et un peu moins comics, parce que dans les comics, c'est souvent un tel contre un tel. Et après, celui d'après, c'est Batman contre Tata et... Et
après,
ça change à chaque fois.
Là-dessus, je suis moyennement d'accord parce que justement, le but de l'univers Batman, c'est de nous montrer que la ville, on l'a dit, elle est gangrénée, qu'il y a de la criminalité partout. Et en fait, Batman, il se bat rarement contre une seule personne. Donc les comics, c'est sûr qu'ils sont ancrés sur tel personnage, tel méchant, mais finalement, on sait qu'il y en a toujours, il y a toujours des choses qui se trament en arrière-plan. Et en fait, le fait qu'une personne tombe et tout de suite, il y en a deux autres qui reviennent, ça nous montre à quel point la ville, elle est corrompue et à quel point il y a du travail à faire.
Moi, je voulais juste revenir sur la musique, parce que j'ai une petite anecdote, je ne sais pas si vous savez. Donc, globalement, pour faire simple, les trois bandes originales sont composées par Hans Zimmer. Hein, encore lui, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais pour ceux qui se sont un peu plus penchés sur les titres de la bande originale de Batman Begins, il y a 12 titres. C'est 12 titres en latin, et les 12 mots de latin sont des variantes d'espèces de chauves-souris.
Alors c'est vrai que j'ai regardé la bande originale, j'ai vu les titres et je me suis pas posé la question, je me suis dit bon, un délire.
Et enfin voilà, par exemple, il y a Molossus, par exemple, et les 12 titres sont des espèces de chauves-souris, donc qui va bien avec le thème principal de ce premier film-là, c'est de tourner le Batman en fonction de la chauve-souris et de voir le lien qu'il y a entre les deux.
Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Pour ce premier opus.
Au pire, on y reviendra puisque c'est une trilogie. Ouais. On y reviendra si on a des choses à dire.
Ça va se croiser et du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec la suite, avec le deuxième volet. Et on va vous présenter un thème et un personnage que vous connaissez déjà sûrement. On se retrouve tout de suite après sur RKS.
Thank you.
Bon, là, normalement, ça devait être chacun son tour qui devait présenter des films, mais j'ai pris un peu le pouvoir parce qu'en fait, c'est un de mes films préférés et je voulais absolument présenter un peu ce chef-d'œuvre. Donc, du coup, de quoi parle du coup le Dark Knight, donc réalisé toujours par Nolan et du coup, c'est sorti 3 ans plus tard, donc en 2008. Donc, ça se passe, l'histoire se passe un an après Batman Begins. Donc, on va dire Batman est bien ancré dans la ville de Gotham, il combat la pègre, tout va bien. Sauf que là, il va avoir un adversaire de taille, pardon, qui n'est autre que le Joker. Donc, le Joker, pour ceux qui connaissent, c'est, on va dire le plus grand méchant, le plus grand némésis de Batman, un peu son double d'un côté. La frontière entre le négatif et le positif, ils sont assez troubles avec Batman et le Joker. Il y a une relation qui se crée dans les comics et aussi du coup à l'écran. Donc je vais commencer directement par souligner forcément. Enfin, on va commencer Cash. Pourquoi le Dark Knight est aussi bon et pourquoi tout le monde aime ce film-là, c'est principalement par rapport à la prestation du Joker, de Heath Ledger.
Donc... D'ailleurs, la musique qu'on vient d'écouter, c'est la musique du Joker. Hein.
C'est le thème du Joker qu'on va retrouver dans la scène d'intro. Donc, on va parler un peu de cette scène d'intro, qui pour moi, une des meilleures scènes d'introduction que j'ai pu voir dans ma vie. Donc, du coup, au niveau de la tension qui est au maximum dans ce film-là, avec du coup une espèce de un violon qui va en fait s'étendre. Hyper longtemps dans la durée, on sait pas trop quand il va finir et on sait qu'après il va se découler sûrement des événements. Donc du coup le Joker, donc ça va être une scène d'intro de braquage. Donc Christopher Nolan s'est inspiré du film Heat, donc de Michael Mann, donc en 95, pour réaliser, bah en fait il s'est jamais caché qu'il était beaucoup fan de ce film là donc il a réalisé un peu, on va dire, un petit clin d'œil. On retrouve d'ailleurs dans cette intro-là le caméo de William Fichtner. Donc William Fichtner, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Mahone dans le Prison Break. Donc un excellent acteur qu'on peut retrouver aussi dans Heat. Donc du coup, ça fait un beau parallèle entre ces deux anecdotes-là. Et c'est la première fois qu'on va voir du coup le Joker. Donc on va le voir dans un premier temps masqué.
De dos.
Avec du coup de dos, voilà, avec un excellent plan de dos. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce plan-là cinématographiquement. Puis on va du coup le découvrir directement en face. Et là, enfin, ça a été pour moi, quand je l'ai vu pour la première fois, ça a été vraiment le plus gros déclic de ma vie. Je me suis dit, putain, là le maquillage est parfait. Enfin, typiquement, pour moi, l'aspect était tout bon. Et à ce moment-là, j'ai compris dans ce film-là, je l'avais pas encore vu, que qu'en fait, ça allait être une putain de prestation que je pense qu'on allait vraiment en prendre plein les yeux.
Alors, le premier film avait été très fort parce qu'il avait permis de rendre un peu plus accessible le genre de super-héros. Et en fait, il y a plein de gens qui sont allés voir Batman Begins un peu par curiosité. Ils n'étaient pas forcément intéressés par Batman, ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, n'avaient pas lu les comics. Et ils se sont dit, bah, pourquoi pas, en plus Nolan aux commandes, ça ne peut que marcher. Et en fait, pour ce film-là, pour le second, il fallait récupérer ce public-là. Et comment ils ont fait ? Eh ben, ils ont teasé le truc à la fin de Batman Begins, où on voit, il me semble que c'est Gordon, montrer à Batman une carte, en fait. Et cette carte, c'est la carte de jeu du Joker. Et à ce moment-là, les gens qui, la plupart, même sans avoir lu les comics, connaissent le Joker par rapport à la culture populaire, sont revenus voir le film. Et là, il y avait quelque chose de très fort à faire pour accrocher le spectateur. Est-ce que ça a été réussi ? Je pense que oui.
Oui, et puis la dernière fois, on parlait du film Joker, hein, le dernier qui est sorti avec Joaquin Phoenix. Là... clairement, c'est une des meilleures prestations cinématographiques du Joker. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. C'est Heath Ledger qui enrôle le rôle du clown et qui, d'ailleurs, a reçu un Oscar à titre posthume parce que peu de temps après la sortie du film, il s'est malheureusement suicidé.
C'était 3 mois avant la sortie du film.
Ah, c'est 3 mois avant la sortie du film. Voilà.
Donc, justement, ça a créé un peu un mythe autour de ce film-là parce que avant même la sortie du film, Heath Ledger, c'était un acteur qui était quand même pas mal reconnu et pas mal aimé par le public. Et le fait qu'il meure dans un film où il incarne le Joker, ça a créé un peu un mystère autour de ce film et je pense que ça a permis justement, on va dire, la montée en croissance de la popularité de ce film.
Merci. Il est devenu un peu intouchable. Quoi. C'est ça. Le Joker et puis personne d'autre.
Et puis la légende disait aussi que c'est en enrôlant ce film que son état mental s'est dégradé et qu'il en est arrivé à cet acte-là.
Il s'était soi-disant enfermé dans un hôtel pendant 3 mois et il ne voulait pas qu'on l'appelle Heath, il voulait qu'on l'appelle directement Joker.
Ouais.
Donc il avait totalement... En fait, le Joker avait pris un peu possession du corps de l'acteur et ouais, apparemment, il voulait absolument voir personne d'autre et... on va dire officiellement, il est mort d'une overdose de médicaments. Est-ce que ce n'est pas un suicide ? Il était un peu dépressif à ce moment-là, après le film. Après le tournage du film, pardon. Donc potentiellement, ça peut être un suicide. Ça n'a jamais été élucidé. Et je pense que malheureusement, ça ne sera jamais élucidé.
Sans trace, sans dernière parole, je pense que ça va être compliqué d'élucider le mystère.
Est-ce que je me lance un peu sur le film ?
Vas-y, si tu veux.
On y va ? Alors, Batman Begins, c'était une histoire non linéaire, c'est-à-dire qu'il y avait des flashbacks, il y avait des sauts dans le temps. Il y a plusieurs moments où il faut un peu s'accrocher pour comprendre où on en est, même moi je me suis perdue, je me suis dit, bah, là il était parti, là il est revenu. Bon, on arrive à peu près à se repérer avec les coupes de cheveux. C'est pas le cas pour The Dark Knight, puisque la chronologie n'est plus décousue, comme Nolan aime bien le faire. C'est quelque chose de linéaire, on va d'un point A à un point B, et l'action va crescendo. Le premier volet, il est relativement calme quand on voit les deux autres opus, même s'il y a pas mal de scènes d'action. Mais alors là, on arrive sur un film où on connaît déjà la plupart des personnages, on sait qu'il y a quelqu'un de costaud qui va arriver, et en fait, dès le début du film, on peut enrayer sur un rythme hyper, hyper rapide, hyper dynamique, et commencer à tout faire péter.
Et tu revenais sur la chronologie, effectivement, le Begin a une chronologie un peu plus à la Nolan, donc très décousue, des retours en arrière. Mais après, le reste, globalement, la trilogie, c'est un Nolan qui est très accessible. Hein, pour ceux qui connaissent Tenet, hein, le dernier en date, ça n'a rien à voir. Hein, ce n'est pas du tout la même manière de narrer une histoire. C'est un Nolan qui est bien plus accessible pour le grand public. Pour revenir sur le rôle du Joker, parce que pour moi, clairement, c'est un peu le point d'orgue de la trilogie. Pour moi, c'est la prestation de Heath Ledger qui est incroyable. Tu parlais du maquillage tout à l'heure, Marvin, et sur le costume. Pour refaire encore un parallèle avec les comics, moi j'ai trouvé que par rapport à ce qu'on avait eu, donc on avait eu le Joker de Jack Nicholson et le Joker de Mark Hamill dans les dessins animés, avant le Joker de Heath Ledger, là on apporte un look totalement différent. Beaucoup moins comics, beaucoup moins traditionnel, entre guillemets, même si on garde tout ce qu'il faut, hein, le grand sourire rouge, les cheveux verts, le costume violet, c'est pas du tout la même esthétique. Ça apporte quelque chose de plus et ça apporte quelque chose au rôle du Joker. Et avec Heath Ledger, il y a un parallèle qui se fait entre la nouvelle esthétique et la nouvelle manière de jouer, si tu veux.
Bah, c'est vrai que c'était un personnage jusqu'à présent qui était toujours montré tiré à quatre épingles, maquillé très finement, avec un costume bien lisse. Et en fait, là, on nous met un mec... on dirait qu'il vient de sortir du coin de l'immeuble, qu'il a passé la dernière semaine à dormir sous un pont. Mmh. Et en fait, le fait de le présenter comme ça, saper n'importe comment, on se dit, mais ce mec est totalement instable, qu'est-ce qu'il va nous faire?
Mmh. Et on a moins un Joker qui est clownesque que d'habitude. Enfin, parce que souvent, dans les comics, on nous présente un Joker. Le Joker, c'est un clown un peu sombre et totalement déjanté. Et là, c'est pas du tout le même.
Il me semble qu'ils le disent une fois dans le film, qu'ils l'appellent le clown une fois, mais de façon relativement négative, pour dire c'est quoi ce clown, quoi. Ils le définissent pas comme étant un clown en soi.
Clown, ou je crois, en version française, il dit aussi une bête de foire.
Ouais, la bête de foire souvent, mais je crois que la pègre l'appelle, le surnomme le clown, mais en surnom, pas du tout positivement ou négativement, quoi. Histoire de pas l'appeler par son nom.
Alors, tout à l'heure, j'ai dit à Marvin, ce qui est marrant dans ce film, c'est que le Joker, il est terrifiant parce qu'il n'a pas de motif. Donc, je vais lui tendre la perche pour qu'il nous dise ce qu'il en pense.
Alors, il y en a beaucoup qui disent que le Joker n'a pas de but dans ce film-là. Sauf que ne pas avoir de but, c'est déjà un but en soi. Mine de rien, il a un but, le Joker, et son but, c'est comme Alfred va le dire à un moment dans le film à Bruce Wayne. Donc moi, j'ai la traduction française, donc je laisserai plutôt Jade me dire ce qu'il lui dit, Alfred.
Il lui dit « Some men just want to watch the world burn ».
Donc on va le traduire par « Certains hommes souhaitent juste voir le monde brûler », tout simplement. En fait, son but à lui, c'est juste de créer le chaos, et il veut que tout le monde s'entretue, en fait. Il veut pas d'argent, il en a rien à foutre de tout ça. Il veut pas le pouvoir, il en a rien à branler. Tout ce qu'il veut, c'est vraiment faire en sorte que Gotham soit à feu et à sang.
Et c'est un thème qui est quand même récurrent, hein, dans les trois films. C'est un peu les trois motifs des trois films, hein, et des super méchants. C'est de voir Gotham s'effondrer par des biais différents, pour des motifs différents aussi, des intentions différentes. Mais clairement, c'est les trois super méchants ne veulent que ça. C'est voir Gotham s'effondrer. Et Batman va vouloir qu'une seule chose, c'est de les arrêter pour pouvoir garder sa ville natale. Et effectivement, même si on a l'impression, et souvent on se dit un super méchant, il veut du pouvoir, il veut l'argent, il veut tout ça, le Joker là vient et sa seule envie, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que tout s'effondre.
Alors on dit souvent que Batman et le Joker sont relativement similaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en fait les deux faces d'une même pièce, sans faire de mauvais jeu de mots auprès d'Harvey Dent. Ils sont l'équilibre l'un de l'autre. Donc comme je le disais une fois, ils sont le bon en toutes circonstances et le mal à tout prix. Donc vraiment l'équilibre. Bruce Wayne, il aspire à être un homme droit et incorruptible. Donc, il se fait un training d'enfer avec Liam Neeson, Ra's al Ghul. Il veut être un mec que rien ne peut faire flancher moralement. Et en fait, la fin du premier volet, et même ce film, voit Harvey Dent. Non, il me semble que c'est dans ce film. On ne le voit pas, Harvey Dent, dans le premier ?
Non.
Je commence à confondre. Dans ce film, pardon, on voit Harvey Dent, qui est l'homme le plus droit de Gotham. On nous le dit, on nous le martèle, on sait que cet homme, il est incorruptible. On voit cet homme-là basculer moralement.
Oui, puis on voit arriver. Hein. Quand on martèle un personnage autant dans un film, on sait qu'il va se passer quelque chose.
Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Batman, qui, mine de rien, se dit incorruptible, eh ben, il s'appuie sur Harvey Dent, il s'appuie sur cette droiture, ça l'aide. Et là, il voit le mec basculer et il se retrouve face à un cauchemar. Il se dit, mais si Harvey Dent bascule dans le sombre, bascule du côté obscur, qu'est-ce que moi, je dois devenir ?
Alors là, je viens juste de voir qu'on a parlé d'Harvey Dent, mais en fait, on l'a même pas notifié une seule fois. Pour ceux qui savent pas, du coup, parce qu'on va quand même un peu parler de Harvey Dent. Donc du coup, c'est un personnage qui est dans les comics, qui là, il va être introduit donc du coup dans ce second film en début de long métrage. Donc du coup, Harvey Dent, c'est un flic.
C'est un procureur.
Voilà. Mais qui du coup qui est vachement du côté du bien au niveau de la justice. À ce moment-là, du coup, il est en flirt avec Rachel, voilà, qui est du coup l'ami d'enfance de Bruce et en même temps le coup de cœur de Bruce qu'il a toujours
son petit crush, quoi.
Voilà, il l'a toujours aimé et du coup à ce moment-là Harvey Dent il est en couple avec cette femme, avec Rachel et le Joker, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il va croire qu'en fait au début il va croire que Harvey Dent est le Batman, et d'ailleurs ça laisse sous-entendre, parce que du coup Harvey Dent est quand même riche, il est quand même puissant, il veut le bien, il veut la justice, donc forcément tout le monde pourrait croire que Harvey Dent est le Batman. Forcément le Joker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un peu sur les notes sensibles, il va capturer Rachel pour faire parler le Batman. Sauf que retournement de situation, à ce moment-là, on apprend que le Joker apprend que le Batman, ce n'est pas, Harvey Dent n'est pas le Batman, c'est bien Bruce Wayne du coup. Bon, ça il le saura pas, mais il a compris à ce moment-là. Et donc pourquoi Harvey Dent sombre dans la folie? Par contre, ça c'était un peu le plan du Joker, c'est que donc ça malheureusement on va spoiler cette intrigue, mais c'est super important parce que il y a la mort de Rachel. Donc du coup ça va totalement retourner ce personnage-là. Jade, qu'est-ce que tu as à dire? Dis-moi.
C'est ma scène préférée de ce film. Le moment où Harvey Dent comprend que Batman a décidé de le sauver lui et pas Rachel. Je trouve que c'est une des scènes les plus fortes de la trilogie.
Ouais, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Pour moi, Batman n'a pas décidé de sauver Harvey. Pour moi, Batman a clairement envie de sauver Rachel. Et en fait, c'est le Joker qui s'est joué de lui en lui annonçant l'inverse.
Ouais, mais le moment où Harvey voit Batman arriver et qu'il comprend et qu'on l'entend crier dans le téléphone du côté de Rachel, c'est horrible.
Pour moi, Batman, il sait très bien qu'il va sauver à ce moment-là Harvey Dent, parce qu'en fait, là, à ce moment-là, il doit faire un choix.
C'est de vie dont la ville a besoin.
Bah oui, mais en fait, il doit faire un choix entre sa vie privée, qui malheureusement, tant qu'il est le Batman, il pourra pas vivre avec Rachel, parce que Rachel lui fait une promesse que s'il arrête d'être Batman, ils vont se mettre ensemble. Donc à ce moment-là, il a deux dilemmes. C'est soit il confie les clés de sa ville du coup à Harvey Dent. Du coup c'est ce qu'il veut faire en fait à ce moment-là. Ce qu'il veut, lui, c'est il faut qu'il sauve à tout prix à Harvey, parce que s'il meurt, en fait, ça montre que tout le monde peut être corrompu et on est en sécurité nulle part.
Ouais, mais il sait très bien que s'il sauve Harvey, il sauvera pas Rachel.
Ouais, donc justement, il fait un sacrifice à ce moment-là. Ouais. Il sacrifie sa vie à lui pour la vie des Gotham.
Et parce que techniquement, le fait de sauver Harvey Dent, c'était un espoir pour lui qu'un jour Gotham n'ait plus besoin de lui.
Voilà. Ouais. Typiquement.
On fait une petite pause ?
Oui, on fait une petite pause. Et encore une fois, on a une transition, parce que ce thème-là s'appelle I'm not a hero, et c'est clairement comme ça que se définit Batman, et c'est comme ça qu'il se définit, puisqu'il a besoin d'Harvey pour pouvoir avoir un héros.
Thank you.
donc comme je vous l'ai dit, c'était le thème qui s'appelle I'm Not a Hero, et on parlait tout de suite de Harvey Dent et du Batman et du choix qu'il a dû faire face à l'épreuve que lui a fait subir le Joker, et ça rebondit bien aussi parce que Harvey Dent n'est tellement pas un héros non plus à ses yeux lui-même qu'il va lui aussi sombrer et devenir un des autres grands méchants de Batman qui n'est autre que Double Face. Et donc Harvey va entreprendre une certaine vengeance dans la dernière partie du film. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà.
Oui, déjà, ce qui est bien, c'est que... Enfin, bien, on va dire pas pour lui, mais pour nous, on va dire pour les spectateurs, c'est qu'à ce moment-là, le Joker a gagné. Qu'est-ce qu'il voulait, le Joker ? C'était mettre la ville à feu et à sang. Et en arrivant à faire basculer du côté, on va dire, du mal, l'homme le plus droit de Gotham, donc comme l'a notifié du coup Jade, à ce moment-là, le Joker a gagné. Mm-hmm. Tout le monde pense que voilà, à la fin, le Joker se fait, on va dire, agripper par Batman et qu'après, il va se faire emprisonner à Arkham. Mais en fait, lui, il s'en fout déjà de ça. D'une, il en a rien à foutre. Et à ce moment-là, pardon, et du coup, à ce moment-là, en fait, il a gagné, quoi. Il a fait en sorte que plus personne croit en la ville et plus personne croit en Batman, puisque du coup, Batman va se mettre les crimes sur son dos pour protéger du coup Harvey Dent, pour montrer qu'il y a quand même encore de l'espoir dans Gotham et que le symbole Harvey Dent, donc le chevalier blanc, comme il est notifié par rapport au chevalier noir de Batman, à ce moment-là, malheureusement, il a été tué, mais il est resté un homme droit jusqu'au bout.
Et encore une fois, Batman se sacrifie pour ne pas que le Joker gagne à 100%.
Et puis je tiens à dire aussi que la règle absolue de Batman, c'est de ne jamais tuer. Donc on nous en parle plusieurs fois dans les comics, c'est vraiment la règle d'or. Batman ne tue pas, il intimide, il fait fuir les méchants, mais il ne les tue pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce film ? Techniquement, il a un peu tué Rachel. Ouais.
Il a un peu tué Rachel.
Et il a un peu tué Harvey.
Officiellement, il a un peu tué Harvey, puisqu'il dit à Gordon d'annoncer à la ville que c'est Batman qui a tué Harvey Dent. Et donc effectivement, là, il déroge un peu à la règle tacite qui n'est que le Batman ne doit pas tuer.
Et du coup, du fait d'avoir tué indirectement deux personnes, on a une remise en question énorme et on débouche sur le troisième film, qui est The Dark Knight Rises, dont on va vous parler tout de suite, qui commence.
Moi, je peux y aller, si vous voulez. Donc, ce troisième film va introduire un autre grand méchant de l'univers de Batman, qui n'est autre que Bane. Donc, monsieur muscle de l'univers.
On dirait un peu un catcheur mexicain, autrement.
Ouais, c'est un peu ça l'idée, un catcheur masqué. Un homme fort, puissant, assez technique, assez agile au niveau du combat. Et donc voilà, c'est le dernier volet de la trilogie. Bane va arriver. On va vite comprendre que Bane est issu de la Ligue des Ombres aussi. Donc comme Bruce Wayne, il a été... formé par Ra's al Ghul, et il vient en fait détruire la ville de Gotham parce que c'est le souhait de Ra's al Ghul et c'est la mission de la Ligue des Ombres. Et donc Bane va venir au départ en tant que mercenaire, puis finalement va prendre le contrôle pour détruire la ville de Gotham au travers d'une bombe nucléaire issue d'un réacteur écologique.
Et Bane, il est interprété par qui ? Parce que c'est important de le notifier
par
quand même.
Par Tom Hardy.
Voilà, donc très bon acteur.
Ouais.
Moi, je sais pas pourquoi, je sais même pas l'expliquer, mais c'est mon préféré des trois. Et on parlait un peu de mise en scène, celui-là, il a une mise en scène segmentée, on a l'impression qu'on franchit des seuils, on franchit des étapes, on a l'impression qu'on est dans un train qui peut pas s'arrêter et on peut juste assister à ce qui se passe. Et moi, je trouve que c'est vraiment un des films de la trilogie, enfin celui qui pour moi est le plus prenant, celui où on a le plus l'impression d'être dans un truc infernal, une machine qui s'arrête pas. J'adore.
Ouais, les trois films sont très différents et se complètent, moi je trouve. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, ça va crescendo dans les temps. C'est 2:20, 2:30 et 2:45 en termes de durée de film. Et je trouve qu'au niveau des méchants aussi, c'est très complémentaire. On a un premier entre Liam Neeson et l'épouvantail qui est très tactique, très pensé, avec un plan machiavélique, avec de l'illusion. Un Joker qui, lui, va tenter de retourner un peu l'esprit en manipulant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça aussi, toujours pour revenir aux comics, je trouve que souvent, le Joker nous est présenté un peu comme fou et est assez violent. Et j'ai trouvé que là, Heath Ledger se retenait un peu. Enfin, pas Heath Ledger, mais le Joker était un peu plus lâche que d'habitude. C'est souvent pas lui qui va mettre les coups. Il va encaisser et venir mettre un coup de pied une fois que l'adversaire est à terre. Bon, bref, pour revenir. Et ça fait, ça fait un vrai contradictoire avec Bane qui lui est Monsieur Muscle, il n'hésite pas à mettre des droites bien testostéronées et bien musclées et que Bruce Wayne a du mal à encaisser.
Et pourquoi je l'aime aussi ce film ? Parce qu'on va pas se mentir, c'est 2h45 de fanservice. On a Selina Kyle, donc Catwoman. On a la Batcave qu'on
jouée
voit.
Jouée par Anne Hathaway.
On a la Batcave qu'on voit dans la roche là. Marvin en parlera peut-être mieux que moi, avec l'eau sous le manoir. On a Alfred qui est toujours incroyable. Moi, je l'adore, mon Alfred. Enfin, c'est un plaisir, les gadgets, tout ça. C'est du grand spectacle.
Alors, moi, j'aime beaucoup ce film à regarder. Par contre, là, je vais un peu... Malheureusement, genre, c'est pas souvent que je fais ça, mais là, je vais un peu démonter ce film. Là, si vous voulez, ce que
vous
je vais
faire. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de lui.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister un peu en pêle-mêle tout ce qui m'a un peu chiffonné dans ce film-là. Et si vous avez vu ce film, vous allez forcément comprendre les scènes. Donc, j'espère que du coup, je serai assez clair dans mes explications. Donc, déjà, ce troisième film se veut beaucoup plus spectaculaire que le Dark Knight. Mais malheureusement, il va tomber assez vite dans une espèce de surenchère, avec notamment des scènes un peu gratuites, des scènes d'intro. Par exemple, la scène d'intro avec Bane, pour ceux qui l'ont, du coup, la scène. Il n'y a pas besoin qu'elle se passe dans un avion, il n'y a pas besoin, elle ne sert à rien cette scène officiellement. Il y a aussi des scènes, par exemple...
Oui, parce que je trouve que la scène d'intro est là pour faire disparaître le docteur Pavel. Et en fait, on le comprend qu'au bout d'une heure de film, qu'il est censé avoir disparu dans un avion. Enfin, effectivement, elle ne sert pas grand-chose.
Bah, c'est une scène qui est très, très belle visuellement. Ouais. Mais bon, voilà, elle perd, on va dire, un peu du grandiose parce qu'au final, on s'en tape un peu l'arrêt. Ensuite, il y a beaucoup de scènes. Alors, c'est très beau. C'est quand Batman est en train de visualiser un peu la ville, donc au-dessus d'un immeuble, voilà, la chauve-souris contemple sa proie. Là, en fait, le souci, c'est que dans The Dark Knight, par exemple, c'était utile parce que du style, il allait sauter de l'immeuble pour atterrir dans un autre immeuble et par exemple, détruire des têtes. Là, le souci, c'est que en fait, ça sert à rien. C'est juste des beaux plans. Et après, sur le plan suivant, on passe à Batman dans la ville, dans les rues. Donc, ça sert à rien. C'est très beau, c'est du fanservice, comme l'a dit Jade, mais ça sert à rien officiellement. Ensuite, il y a aussi l'incohérence sur la convalescence de Bruce Wayne après s'être fait briser le dos par Bane lors d'un combat.
Qui est juste, j'en profite pour le dire, une scène iconique des comics.
Oui.
Bane qui brise le Batman, mais alors c'était un
the
truc
man
de fou.
The back.
Je dis c'est un truc de fou, ça se trouve j'étais même pas né à l'époque, mais c'est un truc de fou.
Bruce Wayne arrive à rétablir sa vertèbre qui est déplacée avec un simple coup de poing d'un de ses co-détenus. Donc bon, je suis pas fort en médecine, mais là faut quand même pas abuser non plus les gars. Ensuite, comment Bruce revient de Gotham après avoir été emprisonné dans une prison, qui d'ailleurs, la prison fait office de parallèle avec le puits qu'on retrouve dans Batman Begins. Comment il fait pour revenir ? Il a plus d'argent, plus de papier, pas d'amis, il est coupé du monde de Gotham.
Après, il sait même pas où il est.
Il sait même pas où il est déjà. Non mais putain, enfin, je veux dire.
Et il a accessoirement à peu près 4-5 mois pour rentrer. Voilà. Il ne sait pas où il est.
Donc ensuite, admettons, il revient. Admettons. Comment ils ont son retour ? Le mec va enflammer un pont avec un bas de signal pour annoncer qu'il est de retour. Niveau subtilité, j'ai vu mieux. Si vous l'arrivez par derrière pour casser la bouche de Bane, bah c'était foutu.
Mais
parce
non,
que
mais justement, il veut marquer parce que Bane, dans sa tête, ça fait 4 mois que.
Ouais, mais niveau effet de surprise, Bruce, c'est pas ouf, quoi.
Mais justement, il veut pas. Il veut que ce soit monumental et théâtral. Dans Bane se dit, c'est bon, la ville est à moi. Bruce Wayne et le Batman sont morts depuis 4 mois. C'est tranquille. Et là, le Batman revient. Et comme l'a bien appris Ra's al Ghul à être théâtral...
Il imaginait mettre le feu à chaque fenêtre.
Et il met le feu à un pont et avec
bon,
un
admettons,
signal énorme.
Celle-là, je te la donne. Admettons. Ensuite, je continue du coup, si tu veux bien.
Vas-y, vas-y.
Donc du coup, Catwoman qui arrive avec la Batmoto. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça une Batmoto, mais bref, voilà, la moto de Batman. Elle arrive à exploser une Batmobile d'un simple coup de feu. Mm-hmm. Alors, je veux bien, mais du coup, dans le Dark Knight et Begins, c'était introduit comme quoi Lucius Fox disait que ces véhicules-là, c'est pour l'armée et qu'ils sont quasi indestructibles.
Ouais,
c'est comme un char
pas
d'assaut.
Passé le contrôle technique,
voilà.
On sait pas.
Ensuite, la mort de Manon Cotillard. Bon, on n'en parle pas.
Oui,
je pense que voilà, pour ceux qui l'ont, c'est pas la faute de Cotillard, c'est la faute de Nolan qui aurait dû valider la scène. Tout simplement, voilà, on va pas revenir dessus.
Il n'y a pas des mauvais acteurs, il n'y a que des acteurs mal dirigés.
Et ensuite, c'est un écart sur la chronologie. Donc en fait, à la fin du film, donc, du coup, la bombe va exploser dans 5 minutes sur une scène, on voit ça. Batman va du coup récupérer cette bombe-là pour la faire exploser hors de la ville. Et du coup, à ce moment-là, on pense qu'il va se sacrifier. Ce plan-là se trouve 4 minutes et 25 secondes après la scène des 5 minutes. Donc du coup, on n'est pas trop sur niveau calcul, je ne suis pas bon en maths. Mais là, si on veut de la cohérence, du coup, on est... Après, oui, forcément, quand t'es dans un film, il y a qu'un seul couillon comme moi qui prend son chronomètre.
Non, franchement, j'ai hésité, ouais. mais la scène avait commencé, je me suis dit.
Non, mais je me suis dit, voilà, putain, je sentais qu'il y avait des incohérences de partout. Du coup, je vois ça. J'adore ce film, mais là, il y a quand même pas mal d'incohérences. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est quand même. C'est pas un mauvais film, loin de là. Mais c'est carrément en dessous de The Dark Knight. Et je pense que, oui, peut-être que Jade préfère le troisième opus, mais le deuxième est meilleur. Et je pense que ça, tout le monde peut le reconnaître. Il est mieux construit. Et... Non mais c'est vrai, désolé, attends.
Les goûts et les couleurs. Et
moi, pour enfoncer encore un peu plus Jade, j'ai d'autres petites incohérences. Alors effectivement, tu parlais de la chronologie et il me semble que quand Bruce revient, il reste que 45 minutes avant l'explosion de la bombe. Et là, je crois que Nolan a voulu qu'il ne reste que 45 minutes au film à partir de ce moment-là. Donc je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est ce qu'il veut. Mais par contre, là, il y a une énorme incohérence, moi j'ai trouvé. C'est que quand Bruce parle avec Lucius, ils sont au milieu de Gotham, il fait nuit noire, et lui dit il reste 45 minutes avant que la bombe explose. Le plan d'après, c'est grand jour, il reste un quart d'heure avant que la bombe explose.
Alors ça ne me dit rien comme ça, mais je me dis une si grosse incohérence, est-ce que ce serait vraiment passé entre les mains du filet ?
Moi, je vous avoue que je l'ai regardé et ça m'a surpris. Il lui dit il reste 45 minutes avant que la bombe explose. Le plan d'après, il fait grand soleil, on voit tous les policiers arriver au niveau de la mairie, et il fait grand soleil, enfin c'est le début de la journée, mais il n'est pas 5h du matin non plus.
Mais c'est peut-être un souci par rapport à la scène de nuit, ça se passait pas vraiment, c'était peut-être dans un environnement sombre ou quoi, parce que quand il y a Bane et Miranda, enfin Talia al Ghul qui se retrouvent avec Batman, il fait jour.
Oui, mais justement.
Donc
oui, non, mais
enfin, il s'est pas mis à faire jour, c'est le truc de la nuit qui a posé problème, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est la nuit qui pose problème. Enfin, Batman il revient, comme il a dit Marvin, le bat signal c'est en pleine nuit, et c'est la scène d'après qu'il va voir Lucius, et Lucius lui dit bon bah il reste 45 minutes, et pouf, après grand soleil. Alors, on est toujours dans le Truman Show et que le soleil il se lève quand vous voulez, soit j'ai pas bien compris comment ça se passait.
Par rapport à la scène du coup en plein jour, donc si par contre je peux dire quand même quelque chose de positif, c'est au niveau de la neige qui est présente du coup à la fin, donc dans l'acte final, donc au niveau du combat, la neige est pas là pour rien. En fait déjà elle va se poser sur du coup le costume de Batman, ça va être en fait une référence au Chevalier Blanc, du coup celui qu'il a toujours redouté d'être, en fait, de se battre en plein milieu de la journée. Lui il préfère la nuit, Batman, à ce moment-là. Là, il va enfin se montrer au grand jour et du coup accepter d'être le chevalier blanc de Gotham.
Et puis je trouve que
c'est joli, comme c'est fort comme message.
Oui, et puis un côté plus pratique, c'est que quand ils se battent dans les égouts, Bane lui dit l'ombre a toujours été ton avantage, mais là c'est moi qui ai l'avantage sur toi dans l'obscurité. Non.
Il dit qu'il est né dans l'obscurité,
voilà,
aussi, Bane.
C'est ça. Donc c'est pour ça que Batman prend le contre-pied, je pense.
L'élève a dépassé le maître.
C'est ça.
Mais bon, vous avez sûrement raison sur pas mal de choses et je suis dans le déni. Mais en tout cas, reconnaissons déjà la performance de Tom Hardy, parce qu'il est incroyable.
Exactement.
Dans ce film. Alors, franchement, il a les deux tiers du visage caché et il livre une performance incroyable. Et surtout, sa voix. Genre, moi, je l'ai vu au ciné quand il est sorti, j'avais 13 ans. J'en menais pas large, j'étais au fond de mon siège.
Oui, et puis physiquement, il s'est quand même transformé par rapport à d'autres films.
C'est une masse.
Hein. Ouais, ouais.
Bah, on va dire que c'est un super acteur, mais c'est une super interprétation, mais malheureusement, sans rentrer encore, parce qu'on va encore parler du Joker, mais voilà, en fait, par rapport au Joker, il y a quand même y a un écart qui se creuse, malheureusement. Et oui, effectivement, Tom Hardy livre une super prestation, et on peut rien lui enlever pour ça.
Et je pense que c'est en passant après Heath Ledger que Bane n'est pas resté dans les annales, quoi.
Et juste avant qu'on vous laisse et qu'on finisse avec une dernière musique, j'ai envie de dire un petit classement.
Oui, un petit classement. Bah, ouais, c'est une trilogie, un petit classement, c'est dur à classer.
Tu commences.
Mais si tu veux, vas-y.
Bah, moi, je commence, vous savez. Moi, je vais mettre The Dark Knight Rises en premier, puis The Dark Knight, puis Batman Begins, qui, à mon avis, va souvent finir à la fin.
Ouais. Bah, moi, je dirais le deuxième, le Dark Knight. Après, Rises, même si j'ai trouvé des moments un peu longs. Et puis Begins, bah, je pense qu'il va être dernier, mais parce que c'est l'entrée, quoi, il casse pas trop pattes un canard.
Bon, il démérite pas, hein, mais...
Non, il est bon, ouais. Moi, ça serait 2-3-1, du coup. Même si je trouve que le 1 est mieux réalisé que le 3, je préfère quand même regarder le 3.
Marvin, donc, on est trop pareil.
Avis personnel, voilà.
Bon, bah, bon, on n'a pas à le parler.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. On a fini avec les trois films et la trilogie de Batman de Christopher Nolan. J'espère que ça vous a plu. Vous, chez vous, parce que chez vous, normalement, on est confinés. On se retrouve la semaine prochaine. Avec quel thème la semaine prochaine, Marvin, s'il te plaît?
Alors, la semaine prochaine, nous aurons le droit au film de sport de combat. Donc, du coup, on aura... Raging Bull, The Fighter, Million Dollar Baby et potentiellement La Rage au Ventre avec Jack Gyllenhaal. Voilà,
Très belle proposition.
Ça va parler transpiration, ça va parler muscles, ça va être cool.
Ça te plaît, Marie. Et moi, juste avant qu'on vous quitte, je vous invite à nous suivre sur la page Instagram ciné7-RKS où on fait un petit retour sur ce qu'on a déjà proposé comme émission avec des citations issues de l'émission. Et puis, vous pouvez nous écrire dessus si vous avez des idées pour des thèmes, si vous avez besoin de recommandations pour des comics Batman. Je répondrai personnellement.
Et si vous avez besoin de nous faire des retours sur l'émission, vous n'hésitez surtout pas, on est ouvert et on est là pour ça. Donc comme chaque semaine, eh ben on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dimanche à 19h. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission et des émissions précédentes sur le site ou sur l'application radio-rks.fr. Et puis comme vous l'a dit Jade, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ciné7-rks et à retrouver la playlist de l'émission avec quelques bonus, comme chaque semaine, sur YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec la musique de Batman Rises, qui s'appelle tout simplement Rises. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.
Salut tout le monde.
Bébé dans un coin.
88 miles à l'heure!
I'll be back.